Je vous invite à vous tourner dans le chapitre 19 du deuxième livre des Rois. On est dans le livre des Rois qui raconte l'histoire du royaume de David qui a été passé, qui était d'abord le royaume de Saül, qui est venu le royaume de David. David, un roi qui était un homme selon le cœur de Dieu, même si tout ce qu'il a fait n'était pas sans péché. Il a même commis de graves choses, de graves péchés, Seigneur, mais ce qui le caractérisait, c'était sa dépendance et son retour à toi, sa repentance, son esprit de repentance, Seigneur. Et Seigneur, tu nous dis que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés et nous laver de toute iniquité, Seigneur. Que ce soit toujours quelque chose qui soit au plus profond de nous. On a vu donc que ce royaume avait été divisé en deux royaumes, le royaume du nord, le royaume du sud. Le sud, c'était Juda avec Jérusalem. Le nord, c'était Israël avec la Samarie, une dizaine de tribus. Appelé des fois le royaume d'Éphraïm, parce que Éphraïm était la tribu la plus importante du nord. Le sud, c'était le royaume de Juda avec Benjamin. Souvent, on parle de Juda d'Éphraïm. Et Seigneur, on voit comment tu as permis cette division et comment, à travers les rois qui se sont succédés, au nord et au sud, tu nous enseignes, Seigneur. On a vu que le royaume du Nord n'avait eu aucun bon roi. Ils étaient tous prêts à encourager l'idolâtrie avec des faux dieux, des endroits sur lesquels, des hauts lieux sur lesquels les hommes se livraient à l'idolâtrie, souvent accompagnés d'immoralité sexuelle. Et Seigneur, on voit que ce n'est pas faute d'avoir essayé de les conduire à la repentance, mais devant leur refus, tu les as finalement laissés partir en exil avec le royaume d'Assyrie. On a vu dans le chapitre 17 qu'ils avaient été emportés. On n'a pas trop parlé du fait que le roi d'Assyrie avait repeuplé la région de Samarie avec des peuplades prises un peu partout, ce qui avait donné lieu à la création de ce que on appelle les Samaritains. Et les Samaritains, ils avaient remarqué que Dieu leur rendait la vie difficile dans cette région. Il y avait des lions qui les attaquaient. Ils avaient compris que c'était parce qu'ils ne respectaient pas la religion du Dieu du pays. Pour eux, les religions, les divinités, c'était des divinités locales. Et le Dieu de Samarie, c'était pas le même que le Dieu de Ninive. Et donc, ils s'étaient dit qu'il fallait qu'ils apprennent à adorer le Dieu local. Ils avaient embauché même un prêtre. Mais toujours est-il qu'ils avaient continué l'adoration de faux dieux. Et lorsque Jésus, plus tard, va passer en Samarie, vous vous souvenez de la réaction de ses disciples, les Juifs n'avaient aucun rapport avec les Samaritains. Les Juifs, qui étaient revenus après 70 ans d'exil à Babylone, on va y venir dans la suite du livre des Rois, avaient trouvé ces peuplades qui se livraient à l'idolâtrie et ils faisaient tout pour les éviter. Ils souhaitaient vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu et donc ils méprisaient, ils évitaient les Samaritains. Et Jésus a montré qu'il aimait tous les hommes, que Dieu a tant aimé la terre, a tant aimé le monde, tous les habitants, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est l'origine donc de cette peuplade ou ce groupe d'hommes, des Samaritains, qui continuent jusqu'à ce jour avec des traditions différentes des traditions juives. orthodoxe. Mais c'est une petite parenthèse, car je crois qu'on n'a pas eu le temps de trop en parler. On a vu que dans le royaume de Juda, il y avait eu enfin un très bon roi, le roi Ézéchias, qui non seulement ne se livrait pas à l'idolâtrie, mais avait fait disparaître les hauts lieux, tout ce qui avait trait à l'idolâtrie, qui avait été permise par d'autres rois du sud, du royaume de Juda. Il avait fait disparaître cela, et il avait été vraiment obéissant à Dieu. Il s'était attaché à l'Éternel, il ne s'était pas écarté de lui, il avait observé ses commandements. Et puis, il a eu, devant le succès de ses entreprises, il a pris un peu la grosse tête, comme on dirait aujourd'hui. Il a voulu s'opposer au roi d'Assyrie, qui avait assujetti le royaume de Juda à des taxes très lourdes. Et quand il a fait ça, il a déclenché la colère de l'Assyrie qui est venue et qui a assiégé, non seulement qui a pris beaucoup de villes en Juda, mais qui s'est mise à assiéger Jérusalem. Et on a parlé d'un personnage un peu mystérieux, un peu étrange. C'est pas Rakam le Rouge comme dans Tintin, c'est le Rab Shaké. C'était un titre et c'était en quelque sorte le général en chef du roi de l'empereur d'Assyrie qui est venu assiéger Jérusalem. Ils ont fait ça pendant 3 ans. Et ils ont... Ce Rab Shaké illustre en quelque sorte la façon dont notre adversaire, nous avons un adversaire, je ne sais pas si vous le saviez, mais nous avons tous en tant que chrétiens 3 ennemis, notre chair, notre vieille nature, le monde, c'est-à-dire le système de valeurs sans Dieu qui nous entoure, et finalement Satan, qui est appelé même par Jésus le prince de ce monde. Nous avons 3 adversaires et Satan est celui qui contrôle le monde et le monde est celui qui tente notre vieille nature. Donc c'est un système assez élaboré de tentation et sans l'aide de Jésus, sans l'aide de Dieu, généralement nous succombons à ces tentations, à ces attaques. Et cet adversaire, Satan, il est réel. Alors je ne pense pas qu'il vienne nous tourmenter en personne, mais il a des tas d'émissaires, il a à sa disposition toute une armée d'êtres angéliques, démoniaques, qui peuvent venir nous tourmenter, nous tenter, qui sont à l'œuvre dans le monde entier. Il suffit de lire les médias, les journaux, la télé, voir la télé, regarder Internet. Il y a une adversité qui se presse contre les enfants de Dieu, contre le monde, contre les hommes. Et on a remarqué que ce Rab Shaké, il utilise des tactiques que Satan ou ses émissaires emploient contre nous, qui consiste essentiellement à nous intimider, à nous faire peur, à nous faire trembler. Pierre nous dira plus tard que le diable est comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Jésus a vaincu le diable à la croix, mais Satan livre une bataille d'arrière-garde pour des raisons que un jour nous comprendrons complètement. Jésus, Dieu, le laisse encore dans le monde jusqu'au retour à la bienheureuse espérance qui est la nôtre, du retour de Christ qui à ce moment-là établira un royaume de 1000 ans, à la fin duquel Satan sera jeté dans le lac de feu, dans l'enfer, et tous ceux qui l'auront suivi le suivront pour leur perte dans cet étang de feu, dans cet enfer. C'est pas des histoires légendaires, ce sont des réalités. Certes, pour l'instant, c'est des réalités spirituelles, mais qui un jour seront matérielles et un jour nous confronterons. Et dès aujourd'hui, nous devons prendre ces choses très au sérieux, ne pas imaginer que c'est des légendes, comme des mythes et des légendes et des contes. C'est la réalité de la parole de Dieu, c'est une vérité. Et cet adversaire, comme le Rab Shakeh, il cherche à nous faire peur. Il parle fort, il se moque de notre Dieu, il nous dit « tu crois pas que toi tu vas échapper parce que tu crois en Dieu ?» Il a dit « tous les dieux, moi je les contrôle. » Et c'est vrai que Satan contrôle toutes les idoles, tous les faux dieux. Ils sont inspirés par Satan, qui est une créature de Dieu, qui à l'origine a été créée par Dieu pour le servir. C'était un être d'une grande beauté. On peut lire ça dans Ésaïe 14, dans Ézéchiel 28, mais qui est tombé de sa position de grande gloire parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu réclamer l'adoration qui n'appartient qu'à Dieu. Et nous avons vu comment cet adversaire, le Rab Shakeh, il se moquait des Juifs. Satan va se moquer de vous. Il va faire que les autres vont se moquer de vous, vous allez trembler de perdre votre réputation et vous n'allez rien dire. Vous n'allez plus parler de Dieu à vos amis, à vos collègues au travail. Il va vous mentir. Il va vous mentir en disant que tu as péché, donc Dieu en a fini avec toi. Et nous disons, oui, c'est vrai, j'ai péché, comment pourrais-je encore mériter l'amour de Dieu ? Mais ça, c'est un mensonge qui vient de l'enfer, ou de Satan, du moins. Et une chose remarquable, c'est que Satan, tout comme le Rab Shakeh, vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de bataille. Ça, c'est très important à comprendre. Il préfère vous faire capituler avant même que vous ayez combattu. Et c'est le problème de la condamnation de Satan qui vous dit « vous n'avez plus aucun espoir avec Dieu » et on dit « oui, c'est vrai ». Au lieu de nous battre dans la prière en revêtant l'armure de Dieu dont il est question dans Éphésiens 6, le bouclier de la foi pour bloquer les traits enflammés, les flèches enflammées du malin, le casque du salut, je les donne dans le désordre, l'épée de la parole de Dieu, le bouclier dont on en a parlé, la ceinture de la justice, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, et à nos pieds, le message de l'Évangile. Ces choses-là, si nous les gardons, si nous, chaque matin, en nous levant, nous sommes conscients d'enfiler ces vêtements. Quand vous choisissez les vêtements que vous allez porter, vous reprenez ceux de la veille parce qu'ils sont encore propres. Pensez à votre armure et priez, soyez dans la prière. Et contre ces armes, et surtout l'arme de la prière, Satan n'a aucune chance. C'est pour ça qu'il veut que vous ne vous saisissiez pas de l'arme de la prière. J'ai toujours aimé dans les vieux westerns, lorsque le bon se bat contre le méchant, il y a toujours un pistolet qui valdingue et qui traîne là, sur le sol pendant que les deux sont en train de se donner des coups de poing terribles dont ils ne souffrent pas parce qu'ils se les donnent à tour de rôle, ils se redressent même s'ils étaient à moitié morts. Mais leur but, c'est de se saisir de l'arme, du pistolet chargé qui leur donnerait la fin du combat, qui mettrait fin aux hostilités. Et de la même façon, Satan, il est là, il donne des coups de pied à la prière. Il va faire que quand vous avez décidé de prier, il y a une urgence. Il y a un coup de téléphone. où il y a une pensée soudaine qui vous saisit, vous dites « Oh ça, il faut que je l'écrive » et vous êtes détourné de l'arme de la prière. Et de la même façon, le Rab Shaké, on a vu qu'il voulait vous faire capituler avant même d'avoir combattu. Puis nous avons dit qu'en fait, il y avait un verset dans le Nouveau Testament qui reprenait cette vérité, que celui qui est au dehors est moins fort que celui qui est au dedans de nous. Si nous sommes chrétiens, nous avons Dieu en nous. Nous sommes enthousiastes au sens grec du mot. Théos est en nous. Et nous n'avons pas à avoir peur. Celui qui est au dedans est plus grand que celui qui est au dehors. Et pour vous rappeler du verset, je crois que je l'ai cité plusieurs fois en faisant des erreurs de nombre, c'est 1 Jean 4, 4. Pour vous en souvenir, rappelez-vous que c'est Jean qui est dans son 4-4 qui arrive en tête de la course, du rallye de la vie. 1 Jean 4, 4. Et cette prière, nous allons voir comment elle est mise en œuvre. On va lire ensemble le chapitre 19 de Deux Rois. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, c'est-à-dire les menaces du Rab Shaké, les menaces de l'Assyrie, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit dans la maison de l'Éternel. Une nouvelle terrible, on lui dit que la grande puissance de l'Assyrie les assiège et va les détruire, va les mettre en pièces. C'est une nouvelle terrible. Et tous, nous sommes confrontés à des nouvelles terribles dans nos vies. Si vous n'en avez pas encore connu de nouvelles terribles, c'est probablement parce que peut-être vous êtes jeune. Mais ce n'est pas une question de si vous allez avoir de mauvaises nouvelles, c'est quand vous les allez les recevoir. Et lorsque nous sommes confrontés à ces mauvaises nouvelles, ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être l'annonce d'une maladie incurable ou très grave. Ça peut être la perte d'un emploi. Ça peut être la trahison d'un époux ou d'une épouse. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Et là, on va voir que le roi Ézéchias, il a de bonnes réactions. Quand il entend la mauvaise nouvelle, il réalise la gravité de la nouvelle. Souvent, une des façons dont nous réagissons aux mauvaises nouvelles, c'est de nier leur importance. Les psychologues ont établi des types de réactions face à des nouvelles graves. Et souvent, c'est de nier la réalité de cette grave nouvelle. Là, il montre par son comportement, il déchire ses vêtements, il se couvre d'un sac de jute. Ça, c'était des façons de montrer le chagrin, le désespoir. C'est des façons publiques de montrer que une nouvelle nous affectait au plus profond et que nous étions bouleversés. J'essayais de penser aujourd'hui à l'équivalent de ce genre de choses. Et il n'y a plus vraiment de manifestations publiques de deuil. C'était remplacé maintenant par des sites qu'on ouvre sur Internet où on peut mettre des messages d'amitié, de témoignages. Mais lorsque j'étais gosse, Il y avait encore des grands D-A-I-S, des grandes tentures noires qui étaient mises devant la demeure des personnes, surtout j'habitais Paris, devant les portes cochères, il y avait un D qui indiquait aux passants qu'il y avait eu un deuil, il y avait du chagrin, il y avait des personnes dans la douleur. Les gens portaient un brassard noir, maintenant ça, c'est simplement les joueurs de foot qui font ça, lorsqu'ils perdent un des leurs. Mais ces manifestations, elles indiquaient qu'on prenait conscience de la gravité, de la réalité de la chose. Et lui, il le fait, il réalise, il voit que c'est quelque chose de très sérieux, de très grave. Et puis, il a un autre bon réflexe, il se rend dans la maison de l'Éternel. Autrement dit, il se tourne vers Dieu. Vers qui ou quoi vous tournez-vous lorsque vous apprenez une très mauvaise nouvelle? Si c'est dans le domaine de la santé, on va se tourner vers un plus grand spécialiste, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais est-ce qu'on s'arrête là? On va se tourner peut-être vers l'alcool, pour oublier la réalité lancinante d'une mauvaise nouvelle, on va essayer de la noyer, de noyer son chagrin dans l'alcool, comme on dit, dans les activités de divertissement. Pascal disait que l'âme humaine se tourne vers le divertissement pour éviter la réalité de sa situation spirituelle, perdue dans le péché. Et on va vers autre chose, on est diverti vers des choses plus faciles à engager, à supporter, à faire. Il va donc dans la maison de l'Éternel. Et puis il envoie Eliakim, un responsable du palais, Shebna, un secrétaire, les plus anciens des sacrificateurs, eux aussi dans le deuil, couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amos. Ils cherchent des compagnons de prière, des compagnons de douleur, d'angoisse, de terreur, et c'est toujours une bonne chose aussi de faire appel à des frères et sœurs en Christ que vous respectez, qui vont être dignes de confiance, qui vont être dignes d'un secret que vous leur confiez. Et puis, il va vers le prophète Ésaïe, fils d'Amoz. C'est la première fois qu'il est mentionné dans la Bible. Il y a bien sûr tout un livre que nous avons étudié, composé de 66 chapitres, qui parle de ces prophéties et qui décrit aussi les mêmes événements que ceux qui sont décrits dans ce passage et qui sont aussi décrits dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 32. Et Ésaïe, qu'est-ce qu'il représente? Bien sûr, c'était quelqu'un qui était respecté, mais c'était le prophète, c'est lui qui annonçait la parole. Donc le réflexe d'Ézéchias devant la nouvelle désespérante du siège de Jérusalem, de la cruauté des Assyriens, c'est non seulement de se tourner vers la prière, seul et avec des amis, des frères et sœurs, des frères en l'occurrence ici, et aussi se tourner vers la parole de Dieu. Alors c'est pas facile. Des fois, je me souviens dans ma vie, j'ai eu des deuils. J'ai perdu mon père à 19 ans, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu une sœur. Et souvent, c'est les pertes d'êtres chers qui sont les nouvelles les plus terribles, parce qu'elles sont quelque part sans appel. Un emploi perdu, on peut espérer le retrouver. Une maladie, on espère la combattre et la vaincre. Mais il y a une côté sans appel du deuil qui est très lourd à supporter. Et moi-même, j'ai essayé de me tourner vers Dieu, de me tourner vers la parole de Dieu. Et des fois, ça paraît insuffisant. Et j'aime bien l'idée de se tourner dans les psaumes, se tourner vers les psaumes. Et les psaumes, quelqu'un m'avait dit, tu lis un psaume, tu en lis un deuxième, ainsi de suite, jusqu'à ce que Dieu puisse te parler, te saisir de ton cœur. Les psaumes, c'est un trésor, écrit en majorité par David, mais pas seulement, qui décrivent toutes les nuances, toutes les états de l'âme humaine devant la vie, devant Dieu, devant l'adversité. Et j'en ai fait l'expérience, tôt ou tard, vous allez tomber sur quelque chose. Alors, il ne s'agit pas de prendre au hasard, mais simplement commencer à lire un passage et puis continuer jusqu'à ce que Dieu vous parle, jusqu'à ce que vous y trouviez du réconfort. Et ne pas abandonner trop tôt. Souvent, on demande quelle doit être la durée d'un temps de dévotion, d'un temps avec le Seigneur. Et on peut dire, bon, mais moi, j'ai pas trop le temps le matin, entre les enfants, le travail, le transport, je prends 5 minutes ou un quart d'heure. Les plus courageux disent, moi, je vais prendre 1 heure. Jésus a dit, vous n'avez même pas prié 1 heure, donc moi, je vais montrer au Seigneur que je fais mieux que Pierre et les apôtres, je vais prier 1 heure. Mais c'est pas... Ma conviction, ce n'est pas quelque chose qui doit être mécanique. Ça doit être, on doit avoir l'habitude d'aller dans la parole, on doit avoir l'habitude de prier. Mais surtout, on doit prier jusqu'à ce qu'on connecte. Jusqu'à ce que Dieu soit là. Si vous avez essayé de lire la Bible en 1 an avec un livre préparé, vous savez, ou en lisant un passage chaque jour... Vous savez comme moi qu'il y a des fois, on peut lire tout un chapitre en pensant à autre chose. On referme le livre, on met la petite marque, mais en fait, on n'a pas connecté, on n'a rien reçu, on n'a rien confié à Dieu. Et Dieu est là qui dit, mon enfant, parle-moi, dis-moi ce que tu as sur le cœur, demande-moi pardon pour tes péchés. Demande-moi l'aide dans ton péché habituel pour que je puisse t'aider à le vaincre. Pas pour que tu sois glorifié, mais pour que je sois glorifié. Faites attention au mot de victoire. La victoire, généralement, à part celle de Jésus à la croix, elle est là pour, souvent avec l'arrière-plan de nous glorifier. J'ai eu la victoire sur ce péché. Sous-entendu, j'ai réussi. Demandons que Dieu nous aide à vaincre, que Dieu nous donne cette victoire, mais évitons le plus souvent, sauf lorsqu'il s'agit de la victoire de Dieu, mais il y a un danger à utiliser le mot de victoire pour nos combats. C'est Dieu qui l'est. La bataille appartient à Dieu. C'est Dieu qui va vaincre, qui va nous aider à combattre nos ennemis, notre chair, le monde et Satan. Les versets 3, ils lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour de détresse, de châtiment et d'opprobre. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'accouchement. » Peut-être l'Éternel, ton Dieu, entendra-t-il toutes les paroles du Rabshaké que le roi d'Assyrie, son Seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'a entendues l'Éternel, ton Dieu. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Il a donné un message à ses responsables du palais, de dire à, Ésaïe au prophète que c'est un jour terrible, qu'il y a une faiblesse qui tombe sur tous les cœurs et toutes les âmes. Il a cette image un peu curieuse, les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais il n'y a même pas la force pour l'accouchement. Vous qui êtes maman, vous savez que l'accouchement, c'est quelque chose auquel il faut donner beaucoup de force et d'efforts physiques. Et d'imaginer qu'un enfant est voué à la mort parce que la maman est tellement faible. Et les menaces, les fanfaronnades de Rabshakeh ont cet effet de vous vider de toute force. Et c'est le but, encore une fois, des menaces de Satan, c'est de vous faire si peur que vous n'avez même plus la force de combattre. Et là, il a gagné la victoire. Pour lui, c'est la seule façon qu'il ait de vaincre, c'est de ne pas engager le combat avec Jésus par nos prières et par notre cuirasse, par notre panoplie, par notre armure de chrétien dont nous avons parlé. Il fait appel à Dieu, il l'appelle ton Dieu. Je crois que c'est simplement un peu parce que Ésaïe était connu comme quelqu'un qui était un homme de Dieu, qui était proche du Seigneur. Ézéchias était peut-être, ne se sentait pas aussi assuré dans sa foi, donc il parle de son Dieu. C'est remarquable comment souvent les gens peuvent vous demander de la prière et vous leur dites « mais vous pouvez prier ?»« Oui, mais toi, tu sais prier ?» Dites-leur que s'ils acceptent le Seigneur Jésus dans leur cœur, ils ont tout autant la puissance, c'est pas ma puissance, c'est la puissance de Jésus agissant en moi en réponse à la prière qui va agir. Et ce que Ézéchias fait de bien, c'est qu'il demande à Dieu d'écouter les paroles du Rabshakeh. Et ça me fait penser un peu à cette façon dont Luther disait que lorsqu'il était tenté, il répondait à Satan, qu'il laissait Jésus répondre à Satan en disant « Luther n'habite plus ici, c'est moi Jésus qui habite ici ». Et de la même façon, ce qui compte, ce n'est pas mes paroles pour Dieu, mais c'est l'insulte du Rabshakeh, de Satan. Envoyez Jésus répondre à Satan. Et là, les paroles d'insulte, de mettre au même niveau le Dieu Tout-Puissant, vivant, créateur du ciel et de l'univers, au même titre que toutes les fausses divinités les idoles des peuples païens qui habitaient la région, c'était une insulte de la plus grande importance, de la plus grande ampleur, de la plus grande magnitude vis-à-vis de Dieu. Et Ézéchias voulait que Dieu lui-même entende les paroles insultantes du Rabshakeh. Nous aussi, nous pouvons demander à Dieu d'aller répondre à Satan qui nous menace, à Satan qui nous condamne. On a parlé de la différence entre la condamnation qui ôte tout espoir et la conviction qui nous conduit à demander pardon à Dieu, la conviction qui vient du Saint-Esprit et la condamnation qui vient de Satan. Et Romains 8, 1 nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Nous n'avons pas à succomber aux menaces verbales, aux fanfaronnades de l'ennemi. Nous avons la parole de Dieu sur laquelle nous pouvons prendre position, nous tenir, appeler Jésus à la rescousse, lui qui est en nous, qui est plus fort que celui qui est au dehors. Il leur demande de faire monter une prière pour le reste qui subsiste encore, Encore une fois, le concept de reste, c'est quelque chose de clé dans la Bible. Dieu a créé le peuple d'Israël en la personne d'Abraham. Il a créé le peuple juif pour, en quelque sorte, atterrir dans la race humaine. Il a donné à la race juive des privilèges énormes. Il suffit de lire Romains 9, 10 et 11. Il a confié les oracles de Dieu, la parole de Dieu au peuple juif. Jésus est lui-même venu du peuple juif, d'où l'acharnement de Satan contre le peuple juif qui s'est poursuivi, qui a commencé il y a bien longtemps et qui se poursuit encore aujourd'hui avec l'antisémitisme, avec l'antisionisme. Encore une fois, ce n'est pas tout le peuple juif tout Israël, plutôt tout l'État d'Israël qui va être sauvé, mais il y a cette notion d'un reste. Et ne méfiez-vous, parce qu'il y a pas mal de chrétiens aujourd'hui qui ont succombé à de faux enseignements qui disent que l'Église a remplacé Israël. Vous ne pouvez pas lire la Bible et affirmer cela sans commettre la plus grosse des erreurs. Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Et la meilleure raison, on l'a vu en étudiant l'Ancien Testament, c'est que s'il n'obéit pas, s'il n'accomplit pas les promesses qu'il a faites à son peuple, alors les promesses qu'il a faites à l'Église ne sont pas dignes de confiance. Votre force dans la conviction que Dieu va accomplir ses promesses, elle se trouve dans la conviction que Dieu va accomplir ses promesses avec le peuple d'Israël. Et je m'inscris vraiment le plus fortement possible en faux contre ces faux enseignements et même des chrétiens qui disent que Jésus n'était pas juif. Il y a des tas de choses qui volent en ce moment et qui peuvent vous affecter. Il y a des gens dans la région qui ont des propos de ce genre. Méfiez-vous, n'allez pas recevoir des faux enseignements. Dieu est le Dieu d'Israël et nous sommes au bénéfice de son amour. Il est le Dieu de toute la terre. Il a donné le salut aux Juifs premièrement, puis aux Grecs. Et n'allez surtout pas succomber à cet antisémitisme qui vient de Satan lui-même. Les gens qui disent que la Shoah n'a pas eu lieu, ne les écoutez même pas. C'est les mêmes qui disent que l'atterrissage d'Armstrong, qui jouait si bien de la trompette et qui a gagné cette fois le Tour de France, son alunissage, ça a été fait en studio à Hollywood. On peut raconter n'importe quoi et dire que ce sont des conspirations, des mensonges, mais il faut un peu de bon sens, il faut un peu de jugeote. Et malheureusement, le bon sens, c'est pas la chose du monde la mieux partagée, contrairement à ce que croyait Descartes. Ésaïe envoie une réponse. Voici ce que vous direz à votre Seigneur. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues. C'est que des mots, tout ça. Et par lesquels on m'ont bafoué les jeunes serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Pas de souci. Tout ça, c'est des paroles en l'air, ce sont des menaces. Et je vais faire en sorte qu'il ait une nouvelle qui va le faire retourner dans son pays et il va mourir par l'épée. Le Rabshaké, verset 8, s'en retourna. Donc il arrête le siège de Jérusalem. Le roi d'Assyrie, verset 9, reçoit une nouvelle aussi au sujet du roi d'Éthiopie qui marchait avec des troupes égyptiennes. Voici qu'il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et là, verset 10, on voit comment l'adversaire est persistant. Satan est rempli de terribles défauts, mais il a une qualité qui nous manque bien souvent, c'est la persévérance. Il persévère dans le mal, il envoie un deuxième messager, il envoie une deuxième lettre où il continue, versets 10 à 13, de dire « Ne croyez pas que vous allez nous échapper. Toutes les autres villes, on les a conquises et tous les rois, ils n'ont pas résisté à nous. » Et là, encore une fois, Ézéchias a un bon réflexe. Il prend la lettre de la mauvaise nouvelle et il va à la maison de l'Éternel, il la déploie devant l'Éternel. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous recevez cette lettre, cette mauvaise nouvelle, cet email, ce SMS, ce texto? Est-ce que vous allez le mettre devant Dieu? Ou est-ce que vous allez voir vos amis non-chrétiens pour leur parler de telle ou telle chose, de telle ou telle mauvaise nouvelle? Et là, il a une des plus belles prières de la Bible. On va terminer avec ça. Ézéchias pria devant l'Éternel et dit « Éternel, Dieu d'Israël qui siège sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre et c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Écoute les paroles de Sennachérib ou Sennachérib qui a envoyé le Rabshaké pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont exterminé les nations et leurs pays. Ils ont jeté leurs dieux au feu. En fait, cela n'étaient pas des dieux, mais des ouvrages des mains des hommes, du bois, de la pierre. Ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, sauve-nous donc de la main de Sennachérib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi, seul, Éternel, tu es Dieu. Alors Esaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. » Ézéchias vient devant Dieu en se rappelant qui il est. Il est le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, créateur des cieux et la terre, qui est révélé dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il est au-dessus des anges, il siège sur les chérubins, il est dans le temple, il était au-dessus du couvercle, de l'Arche de l'Alliance, et il siégeait entre les chérubins, les anges qui avaient été prescrits. Ça, c'était une image des réalités à venir, une image des réalités célestes. On l'a vu en étudiant l'Apocalypse, le trône de Dieu et les anges qui l'entourent. C'est toi qui es le seul Dieu pour tous. C'est pas seulement le Dieu des chrétiens. Il est le Dieu des musulmans, il est le Dieu des athées, il est le Dieu de ceux qui ne le reconnaissent pas, il est le Dieu de ceux qui l'attaquent, ceux qui le condamnent, ceux qui le jugent en disant qu'il n'existe pas, mais que s'il existe, il n'est pas un bon Dieu. Il est le roi au-dessus de tous. Prête l'oreille et écoute. Est-ce que vous demandez à Dieu de vous écouter lorsque vous priez? Ouvre les yeux, regarde. Regarde ce gars qui t'insulte, qui a insulté le Dieu vivant. Est-ce que vous faites appel à l'honneur de Dieu devant ces gens qui le méprisent, devant ces gens qui se moquent de lui, devant ces gens qui institutionnalisent des péchés contre sa volonté? L'avortement, le mariage entre homosexuels, l'adoption, toutes ces choses-là, c'est se moquer de Dieu. Et puis il dit, oui, c'est vrai que ce roi d'Assyrie, il a exterminé les nations et leurs pays, mais ils avaient des faux dieux. Toi, tu es le vrai Dieu. C'était juste des statues faites en bois et de la pierre. Sauve-nous, Seigneur, et que la terre entière soit convaincue, reconnaisse que toi seul, Éternel, tu es Dieu. Est-ce que vous priez, lorsque vous priez pour votre guérison, peut-être d'une maladie, lorsque vous priez pour que le repos se fasse après un deuil terrible, pour que cette réaction, cette qui vous est facilitée par Dieu, est-ce qu'elle puisse toucher les autres? Ça, c'est admirable. Non seulement il voulait être sauvé, mais il voulait que le monde entier reconnaisse que l'Éternel, tu es Dieu. Et le verset 20, c'est merveilleux, c'est l'assurance par le prophète que Dieu a entendu sa prière. Et il donne la parole qu'il a prononcée contre lui. Il ne va pas avoir raison de Jérusalem. En insultant Jérusalem, en insultant le peuple juif, il a élevé la voix contre, verset 22, contre le Saint d'Israël. Tu as insulté le Seigneur, verset 23. Et il fait dire au roi d'Assyrie que tu t'es pensé très fort parce que je t'ai donné des victoires, mais tu as oublié, verset 25, que tout ça, c'est moi qui t'ai permis de le faire. Mais toutes ces victoires ne seront pas de longue durée. Tu as verdi un peu comme l'herbe des champs ou l'herbe qui pousse sur les toits. Mais ça va faner en un instant. Et puis il lui dit, verset 26, je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres. Toi qui te moques de moi, je connais ta vie à l'endroit, à l'envers. Ça rappelle le psaume 139:2. Et surtout, quand tu t'emportes contre moi, que j'entends ton arrogance, je vais te traiter, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors à tes lèvres. Je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Je vais te faire subir le même sort que je t'ai laissé imposer à mon peuple parce qu'il avait besoin d'être corrigé. Mais ce n'est que pour un temps. Il lui donne même un signe, il donne un signe à Ézéchias que parce qu'ils ont été assiégés, ils n'ont pas pu planter des semences, mais le Seigneur va provoquer une récolte qui va leur permettre de subsister la première année, qui va leur permettre de semer la deuxième année, et la troisième année, ils pourront moissonner, ils vont planter des vignes et en manger le fruit, verset 29. Et verset 31, car de Jérusalem, il sortira un reste des Juifs messianiques, comme on dirait aujourd'hui, des Juifs qui reconnaîtront que Jésus est le Sauveur. Et de la montagne des Sion des rescapés, voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et le roi d'Assyrie, il ne va pas entrer à Jérusalem. Il y a des milliers de soldats qui sont pleins de testostérone, qui veulent en découdre, qui veulent tuer mon peuple, mais ils n'enverront même pas une simple flèche par-dessus les murailles de Jérusalem. Et c'est ce qui s'est passé. Verset 35, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici que c'était tous des cadavres. Une victoire miraculeuse. Le Seigneur peut intervenir dans votre vie de façon miraculeuse. Est-ce que vous le croyez? Vous pensez que c'est juste relégué à ces vieilles histoires de l'Ancien Testament? La lettre aux Hébreux nous annonce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il est le même Dieu, il a la même puissance. Si vous lui faites confiance, il va honorer votre foi, votre confiance en lui. Priez pour que l'exaucement de vos prières soit un témoignage pour ceux qui vous entourent, que toutes les nations de la terre reconnaissent qu'il est Dieu. 185 000 hommes, la moitié de la population de Nice, ça fait du monde, en armes. C'est intéressant parce que on a retrouvé des annales de ce roi Sennachérib, écrit en écriture cunéiforme, et qu'en fait il dit qu'il a envahi, il a détruit des villes, mais il a seulement imposé un tribut à Jérusalem lui-même par l'absence de message disant qu'il avait pris Jérusalem, reconnaît la vérité de la parole de Dieu. Et puis, quelques années plus tard, comme il retourne chez lui, il réside à Ninive, la capitale de l'Empire d'Assyrie, verset 37, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu. On entend parler Kissi. S'il y a des amateurs d'orchestre, voilà un nom à tout trouver, Nisroch, son dieu. Ses fils Adramélec et Saretser le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Son fils Esar-Hadon régna à sa place. La prophétie de Dieu en réponse à la prière d'Ézéchias va s'accomplir à la lettre. Pas une seule flèche ne sera tirée contre Jérusalem. Malheureusement, Jérusalem va tomber quelques années plus tard parce que les successeurs ne vont pas continuer à faire confiance à Dieu. Nous avons parlé de 1 Jean 4:4. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est au dehors. C'est intéressant que dans le passage parallèle de ce que nous avons lu ce matin dans 2 Chroniques 32, versets 7 et 8, et je terminerai par ces deux versets, il est dit « Fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte et sans effroi devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec vous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui soutiendra nos combats. » Le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cet exemple de foi en toi devant l'adversité. Merci Seigneur de nous rappeler la puissance de l'arme de la prière, Seigneur. Parce que c'est pour nous une façon d'invoquer ta puissance sur nos situations, sur nos désespoirs, sur nos chagrins, sur nos anxiétés, sur nos peurs. Nous voyons comment il faut se rappeler qui tu es lorsque nous nous adressons à toi. Prier jusqu'à ce que nous rentrions vraiment en contact avec toi, Seigneur, que nous sentions ta présence, parce que c'est ton désir, Seigneur. Tu es toujours là, tu attends que nous venions à toi, Seigneur. Tu es ce bon Père qui a des ressources infinies, contrairement au Père terrestre, et qui nous aime, Seigneur. Pardonne-nous lorsque nous allons chercher les bras de chair, Seigneur, c'est-à-dire les moyens charnels, les ressources humaines. Nous avons même un terme, nous parlons de la gestion des ressources humaines, et Seigneur, c'est légitime dans le domaine de l'emploi, mais aide-nous à ne pas compter sur nos ressources humaines lorsque nous avons besoin de ton amour, de tes ressources infinies, Seigneur, pour que tu sois glorifié dans la façon dont nous te faisons confiance et la façon dont tu réponds. Sois à l'œuvre, Seigneur, dans chacune de nos vies. Et Seigneur, que nous puissions savoir vraiment comment réagir quand arrive la mauvaise lettre, quand arrive la mauvaise nouvelle, Seigneur. Nous avons ce privilège d'avoir connaissance de ta parole et surtout d'avoir ta présence en nous. Alors, Seigneur, nous t'implorons de faire de nous une maison de prière. Et en cette année qui va bientôt commencer, Seigneur, de faire que tous, individuellement, dans nos moments quotidiens, mais aussi collectivement, nous emparions de cette arme de la prière pour que tu puisses agir en nous, parmi nous, au milieu de nous et surtout à travers nous, Seigneur, pour toucher un peuple désespéré, un peuple sans espoir qui n'a que de faux dieux vers lesquels se tourner. Seigneur, c'est notre prière. Et nous savons que nous l'adressons au Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre qui n'a pas changé depuis ces événements, qui veut toujours toucher le monde Oui, Seigneur, aide-nous à croire à ta puissance pour aujourd'hui, Seigneur, par l'Esprit Saint qui habite en nous, par ta parole qui est à notre disposition. Toi qui es en nous, Seigneur, sois plus fort que celui qui est au dehors. Tu nous le promets, nous le savons, aide-nous à le vivre. Dans le nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Amen.